va peut-être en avoir des séries, puis le Canadien va peut-être gagner la Coupe cette année. Ça sent peut-être la Coupe à Montréal. Pour en discuter, on va joindre notre collègue descripteur des matchs, Martin McGuire. Bonjour.
Bonjour, Éric.
Donc, Martin, là, il y a une entente, finalement, puis on connaît les villes bulles, ou je sais pas comment il faut les appeler.
Oui,
là,
les villes bulles, tiens, ça va aller comme ça.
Les villes bulles où pourraient se tenir les séries de la Coupe. C'est deux villes canadiennes, en plus.
Oui, écoute, Éric, c'est circonstanciel, mais honnêtement, on peut se le dire entre nous autres, là, c'est une petite victoire pour le hockey canadien, c'est une bonne chose. Que l'on ait considéré Toronto et Edmonton. C'est circonstanciel parce que je pense que le choix numéro un pour la ville de la conférence de l'Ouest était assurément Las Vegas. Mais l'éclosion d'un fort pourcentage de cas de COVID dans les dernières semaines, jumelé à ça, là, certaines villes du sud des États-Unis aussi là, qui vivent exactement le même problème actuellement, a éliminé Vegas et peut-être aussi un peu pour Chicago, parce qu'à Chicago aussi, sans que ce soit aussi important que la Floride, on a eu des cas qui sont ressortis au cours des derniers jours.
C'est pour ça que Montréal avait été éliminé dès le départ, parce que c'était un des pires centres de COVID aussi. Là,
dès le départ, également New York, il va sans dire, ne faisait pas partie d'aucun plan de la Ligue nationale. Mais bon, après ça, là, Edmonton, il faut vraiment reconnaître qu'ils ont travaillé fort. M. Kenney, le premier ministre de l'Alberta, a fait lui-même des recommandations. Le maire d'Edmonton, l'organisation des Oilers s'est servie de Wayne Gretzky pour faire un peu de lobbying auprès de la Ligue. Edmonton, Éric, parce que je suis allé souvent, que ce soit pour la Coupe Grey, les matchs de hockey, le premier match à l'extérieur a été organisé là-bas. Moi, je peux te dire une affaire, côté organisation à Edmonton, ils l'ont. C'est pas la ville la plus exotique, mais ce sont des gens très dynamiques. Quand ils embarquent dans quelque chose, tout le monde embarque. Puis ils vont faire une bonne job avec ça.
Parlons-en là, de la job qu'ils vont devoir faire. Là, d'abord, on le sait que les arénas vont être vides, mais est-ce qu'on a des dates? Puis est-ce qu'on sait? Parce que là, on sait qu'il y a des cas d'entraînement où il y a des cas de COVID dans certaines équipes. Y a-tu encore de l'incertitude ou on commence à avoir un calendrier là, de plus en plus détaillé?
On commence à avoir un calendrier. Là, 10 juillet sera véritablement le début des cas d'entraînement. Là. Ensuite, un peu plus tard, cas d'entraînement qui devrait durer environ un peu plus de deux semaines. Là. Puis je pense que dans les derniers jours de juillet, premier jour d'août, on va être capable d'entreprendre tout ça puis de commencer les activités, de commencer ces fameuses séries.
Est-ce qu'ils vont être isolés? Les joueurs vont être isolés avec leur famille ou ils vont être tout seuls?
Ils vont être isolés sans leur famille parce que, évidemment, les joueurs, écoute, même là, actuellement, il y a plusieurs gars là, du Canadien de Montréal qui sont rentrés à Montréal pour le camp d'entraînement qui va débuter la semaine prochaine. Là. Puis la plupart des joueurs ont décidé de laisser leur famille derrière. Ceux dont les familles sont en sécurité là, dans des milieux où il n'y a pas de cas de COVID et tout ça, là, ils ont décidé de laisser la famille derrière parce que de toute façon, c'était peut-être la décision à faire. Puis pour le reste, il y a les plateformes, il y a les tablettes, il y a les téléphones, on peut faire de la vidéo pour rester en contact avec la famille. Puis de toute façon, Éric, là, il y a seulement deux équipes qui vont se rendre au bout du processus. Là. Logiquement, le Canadien puis les Pingouins, là, dans un 3-5, là, la logique, c'est que les Pingouins gagnent le 3-5.
Mais là, parlons-en. Là, ils ont-tu intérêt, même le Canadien, à ce qu'ils gagnent? Parce que là, on voit que Alexis Lafrenière est encore disponible. Ben oui. On aurait 12,5% des chances de l'avoir si on se fait éliminer par Pittsburgh. Puis je regarde Carey Price. Là, il a pas l'air très, très motivé. D'ailleurs, ça m'a découragé ce bout-là. Puis je veux t'entendre là-dessus. Là. Il a pas l'air d'un gars que ça y tente de jouer puis de gagner. Là.
Non, Carey Price, il est dans sa bulle. Tu sais, là, tu l'as appelé chez lui là, en Colombie-Britannique. Là. C'est-à-dire qu'en fait, il était à Tri-City là, avec sa belle famille dans l'État de Washington. Puis Carey Price, il est comme ça, là. Tu sais, c'est pas Monsieur Relations Publiques, là. Puis c'est bien rare que son enthousiasme va sortir devant des micros puis devant les journalistes. Mais Carey Price va jouer puis il va être au rendez-vous. Il y a pas de trouble là. Puis en ce qui a trait à Lafrenière, Éric, tu sais, moi je vais te faire la comparaison suivante. C'est comme si tu rentrais dans le vestiaire d'un boxeur là, puis tu disais, ok mon homme, tu vas nous faire trois belles rondes de boxe, puis après ça tu vas te coucher, tu vas t'étendre à terre. Là, lui, il va te regarder, là, puis il va dire, moi, là, dans ces conditions-là, je m'en vais chez nous, puis je boxe pas. Puis les joueurs de hockey, c'est exactement ça. Est-ce que le Canadien gagnerait plus de participer à la loterie Lafrenière? Peut-être. Mais Claude Julien, à qui on a parlé aujourd'hui pendant une conférence de presse téléphonique, a quand même apporté le point suivant. Ils ont de plus de chances de battre les Penguins de Pittsburgh, de passer à la ronde suivante, de donner de l'expérience à nos jeunes joueurs que de gagner la loterie Lafrenière, même si on a 12,5% des chances. Il y a toujours bien un 70% des chances et plus qui va contre le Canadien. Je pense que c'est un peu l'argument qui tient jusqu'à maintenant. Tu sais, honnêtement, c'est sûr que l'élimination contre les Pingouins, c'est très probable. La participation à la loterie est très probable, mais je pense pas que le Canadien perdrait à avancer plus loin en série parce qu'on peut pas établir avec certitude que Lafrenière appartiendrait aux Canadiens après.
C'est sûr. C'est sûr que si on était sûr que c'est le Canadien qui l'aurait, je pense que là, ça serait une autre histoire. Là. Ça, on se parlerait pas de la même façon. Fait que là, dans le fond, mais le Canadien, de toute façon, qu'il fasse les séries, c'est déjà une victoire. Pour lui, le coronavirus, ça a été salutaire. Là.
Ça a été salutaire. Puis en plus, là, l'espèce de loterie complètement folle qu'on a eue la semaine passée, ça a été salutaire aussi. Parce que pense à ça, Éric, là. On s'était parlé tous les deux au début de mars, là, puis on parlait des chances du Canadien, là, à peu près impossible de rentrer en série. On se retrouve trois mois plus tard avec une participation en série, puis 12,5% de chances d'avoir Lafrenière, tandis que dans l'autre scénario, c'était 3,5%. Alors, honnêtement, le Canadien gagne sur à peu près tous les plans, puis là, la nouvelle entente collective, un plafond salarial à 81 millions, Marc Bergevin va peut-être même avoir de la manœuvre pour aller chercher un bon joueur ou deux à l'automne.
Donc, le Canadien pourrait enfin avoir un club. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On a hâte au mois de juillet, dans quoi, le 7? Quelle date? Le 10 juillet que ça va commencer le camp d'entraînement, puis la saison fin juillet, début août.
Fin juillet, début août, on devrait être en mesure de présenter des matchs à Cogeco impliquant le Canadien.
On a hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Martin McGuire.
Bonne fin de journée.
On a hâte que tu reviennes saison. Ciao.